إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونكمل إن شاء الله، نواصل إن شاء الله مع كتاب مفتاح دار السعادة في بيان أهمية العلم، انطلاقا من ما ذكره ابن القيم، وكذلك مع بعض التطبيقات لأهمية العلم الشرعي في واقعنا الذي نعيشه. donc on est avec le fait de citer l'importance de la science et de là aussi du livre de Ibn Qayyim, de tirer certains profits de ce livre et des livres aussi de certains fawaïd de certains contemporains comme Cheikh Abou Mohsin Al-Abed et d'autres, et cette application de l'importance de la science, l'application par rapport à ce qu'on vit, et aussi comment on peut, grâce au fait de donner l'importance qu'il faut à la science, faire face aux fitaines auxquelles on vit aujourd'hui, parce que c'est ça l'essentiel. On étudie, on apprend pour appliquer. Si on apprend quelque chose, si on écoute un dars, si on essaie d'avancer dans la science, on essaie d'avancer, on est dans un domaine qui nous permet de rentrer dans certaines pratiques. On n'est pas en train d'étudier pour rassembler juste des informations qui n'ont pas une utilité dans notre vie pratique. Et c'est pour ça, c'est un petit peu pour ça que je sors des fois dans les exemples que je cite, que je m'éloigne des fois du contexte du cours. C'est un petit peu pour renforcer l'idée qu'on est en train de citer, de renforcer Asl, qui est un axe important, et qui est très important même dans le cadre de ce qu'on appelle Minhaj, c'est-à-dire la méthodologie de Salaf Saleh, à leur méthodologie face aux différentes sujets de la religion, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'akhlaq, que ce soit dans... C'est-à-dire, nous, le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il ait dit, lorsqu'il a parlé de la division de cette nation en 73 parties, il a bien dit, le chemin du salut, c'est, dans le sens de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin du salut, c'est ma'ana alayhi wa ashabi. C'est le chemin sur lequel je suis et mes compagnons. Donc le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le minhaj sur lequel il suivait. Et donc, la position des compagnons par rapport à l'aqidah, nous on la prend, par rapport au fait de porter les armes contre nos gouvernants, on prend ce qu'on fait sahaba, dans le fait de suivre un medeb, de ne pas suivre, on suit les compagnons. Quand on parle de minhaj, c'est quelque chose de vaste. Et c'est surtout pour essayer de nous positionner par rapport au chemin sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir si on remplit bien les conditions d'être sur le droit chemin. Et bien sûr, l'aqidah, c'est quelque chose de très important. Donc, din, c'est même la base. Et c'est pour ça que Ba'd al-ilm, il ne différencie pas. Quand il parle du minhaj et du aqidah, il te dit c'est la même chose. Et il y en a qui différencient parce qu'ils disent oui, certains ils peuvent avoir une aqidah sahiha et un minhaj qui s'éloigne, dans le sens qu'ils peuvent parler de tawhid, tawhid avec ses différentes caractéristiques, comme c'est cité dans Salaf, alors que quand il s'agit de porter les armes contre le gouverneur, il sort un peu de ce qu'était Salaf Saleh. C'est-à-dire le fait de dire que le minhaj il est plus vaste, il parle de cela, du fait de remarquer que, vu la force, c'est-à-dire que le fiyah, elle revient en force d'une façon générale, et elle a influencé les autres da'awad, que ce soit à quel qu'il soit. Et donc, on trouve, yani, dans les autres qui suivent autre chemin que celui, un autre chemin que celui qui cité par qui a suivi nos pieux prédécesseurs, des gens qui restent, yani, mukhadramin, un petit peu, ils font un petit peu un mélange, hein, parce que ils n'arrivent pas à faire face à la force, yani, surtout du point de vue talim, du point de vue de la science, de ce qui est rapporté par les imams qui prônent le manhaj salaf, et en même temps, ils restent attirés par le minhaj sur lequel ils ont vécu pour une raison, pour une autre, pour un hawa qui suit, ou pour... Et donc, ils essaient un petit peu de marier les deux, et c'est pour ça que la notion de différencier ou de parler de minhaj aujourd'hui, c'est le contexte. Et au fait, le fait de dévier du droit chemin, ça se répercute toujours sur le côté de l'aqidah. Au fur et à mesure, tous ceux qui ne suivent pas des règles strictes dans le fait de suivre, yani, ça se répercute. Yani, c'est vrai qu'ils annoncent des voies, certaines choses qui concordent avec l'aqidah. Mais si tu vas dans le détail de toutes choses, yani, tu vas trouver, à un certain moment, tu vas trouver qu'ils vont se diviser, c'est-à-dire se différencier de l'aqidah sur laquelle était Salaf Salah. On avait aussi cité l'histoire de l'imam Bukhari dernièrement. Peut-être que certains ont essayé de dire, voilà, c'est quoi les références. Bon, c'est l'imam Zahabi, dans la biographie dans le Sir Alam Nubala. J'avais dit dans un des cours 13 volumes, peut-être c'était assez ancien. Bon, je veux dire, c'est 28 volumes. Hein, il cite, yani, la vie des alam, c'est les savants, qui ont jalonné, yani, tous les siècles qui étaient avant l'imam Dahabi. Dahabi, c'était le 7e siècle, donc il a cité par rapport à du temps du prophète jusqu'à 100 ans, tous les savants, la biographie des savants qu'il a. Et dans ce livre, il y a beaucoup de fawaïd, il y a beaucoup de bien. Et dans ce livre-là, il cite un peu l'histoire de l'imam Bukhari. Quand il a été, j'allais dire, bédaï de son temps, avec les termes d'aujourd'hui. Hein, avec son cheikh, un des chiouks, Mohamed ibn Yahya Zuhli, hein, qui était connu. Et certains ont cité, peut-être demandé un petit peu les références, hein, c'est une histoire qui est connue, peut-être que certains ne la connaissent pas. Hein, donc, pour l'imam Zahabi, le mas'alatu ya anna al-lafza makhlouq su'ila anha al-Bukhari. Le fait que celui qui lit ici le Coran, hein, c'est quelque chose qui a été créé par Allah Azza wa Jal, il y a une confusion là-dedans. Hein. C'est ceux qui ont dit que le Coran, c'est une des créations d'Allah Azza wa Jal. Quand le sunan imam Ahmed, il a repris le dessus sur le Mu'tazila, il a fermé les portes à tous ceux qui voulaient fuir le fait de revenir sur les paroles de Salaf Salah, de dire que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc ceux qui sont restés influencés par ce que disait Mu'tazila, ils fuyaient vers le fait de dire, nous on dit que notre parole, notre lecture du Coran, c'est quelque chose de créé. Et donc, le Sunnah, ils leur ont barré même la route sur cela, ils leur ont dit, celui qui dit cela, il reste toujours avec une influence de Mu'tazila. Parce qu'il ne répond pas clairement dans le sens de dire que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le fait de lire la parole d'un autre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la parole de l'autre. Que tu la lises, soit ça ne veut pas dire que ce n'est pas la parole. Hein, tu dis, je lis ce que dit Ibn Khayyim, c'est ce qu'a dit Ibn Khayyim, hein, dans ça, et dans ça. Et donc, ça, c'était une fête. Et certains, lorsque l'imam Bukhari est venu, je pense, à Nassabour, ils ont essayé et vu l'influence qu'il avait, certains jours de cette ville, à Nassabour, ils ont un petit peu jaloux, c'était un petit peu jaloux de l'influence qu'a fait l'imam Bukhari sur eux. Et donc ils ont sorti cela, le fait de poser cette question à l'imam Bukhari. يقول الإمام الذهبي وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لجماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل البخاري لما ورد نيسابور كنت لفني عن نيسابور اجتمع الناس عليه عن النصام دي جنس سنرو جروبي وطور دول بي ورابون لسيونس حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور donc il a été jalousé par certains des مشايخ de نيسابور une ville du fait qu'ils ont vu que beaucoup de, c'est-à-dire que la majorité des gens étaient autour de lui. Le fait qu'ils se sont regroupés autour de lui. Ils ont sorti, ceux qui l'ont jalousé là-dessus, ils disent que l'imam Bukhari dit que le fait de lire le Coran, c'est quelque chose qui a été créé. Donc posez-lui la question. Donc les gens sont groupés autour de Bukhari. Il y avait quelqu'un qui s'est levé, il a posé la question. Il a dit, l'imam Bukhari n'a pas voulu répondre. Bukhari, parce que c'est quelqu'un qui ne cherche pas la science, mais qui cherche la fitna. Il a bien compris. Ce sont des imams. C'est des imams d'Andine. C'est des gens qui savent qui comprennent les intentions de ceux, des fauteurs de troubles, des gens qui cherchent, qui ne sont pas là pour chercher à apprendre la science ou pour poser des questions avec un but, de détruire ou un but de mal. Fakhal Rajoul, il a répété la question et dans la troisième, l'imam Bukhari lui a répondu, il lui a dit le Coran ou Kalamullah ghayr makhluq. Donc il a cité la base d'Ahl al-Sunnah. Donc il a bien explicité son avis dans cette question et qui concorde avec ce que dit l'imam Ahmed et ce que disent l'imam al-Sunnah. Et il a rajouté wa af'al al-ibad makhluq. Tandis que les actions qu'on fait, c'est des actions qu'Allah Azza wa Jal a créé. Le verset, il est clair. Wallahu, khalaqakum wama. C'est quoi l'ayah qui dit Matfalun. Donc là, je nous a créé, il a créé aussi nos actions. Af'alu l'ibadi makhluqa. Et il a rajouté wal imtihanu bida. Le fait quand tu me questionnes pour m'examiner, ce que tu as fait là, c'est une bida. Donc celui qui l'a questionné n'a pas accepté cette réponse et a commencé à hurler, etc. Et les gens se sont retirés des cours de l'imam Bukhari. Ça a été rapporté l'imam Zuhri, ce qu'a dit l'imam Bukhari. Il a donc averti contre son dars. L'imam Bukhari s'est retiré sur Yannaïsebour et il est même retourné à Bukhara. Donc il y a il a eu le soutien de, comme dit Cheikh Rabia dans son livre Bain al-Imamayn Muslim ou Darqutni, qui était, je pense, son sujet de magistère. Il a répliqué aux critiques de l'imam Darqutni concernant Sahih Muslim. L'imam Darqutni, il est né à quel, c'était quel siècle, c'était quelle date, 306. Il est resté 70 ou 80 ans. Donc, Imam Darqutni, c'est Imam al-Imam al-Jarhutadi. C'est un grand imam dans la question de la critique de Da'im al-Hadith dans le jeu. Et pourtant, il a émis Imam Darqutni. C'est parmi les imams qui ont émis des critiques, même concernant cet hadith de Bukhari et de Muslim. Bon, ces critiques ne vont pas jusqu'au point de dire que ces hadiths sont d'âge. C'est-à-dire qu'il a critiqué les conditions fortes qu'ont mis Imam Bukhari et Muslim dans leur sahih, en disant que ce hadith n'est pas aussi fort que ce que dit Imam Bukhari ou que ce dit Imam Muslim, parce qu'il y a ça, il y a ça. Il a cité des critiques. C'est une question qui est liée à la science. Et malgré cela, c'est un imam, hein, c'est un grand imam, imam Dar-Qutni, hein, et malgré cela, la critique qu'il a donnée concernant le Bukhari Muslim a été répliquée par des ulama. Et elle n'a pas été la règle générale, c'est que la critique prévaut sur l'éloge, il faudrait la prendre comme l'a pris ulama al-hadith, yani dans le cadre de sa science. Il faut bien la comprendre qu'elle a des conditions et des règles pour l'appliquer. Ce n'est pas une règle qu'on applique comme ça, comme le comprennent certains, d'une façon comme ça, absolue, etc. Ça n'existe pas. Dans un hadith, c'est pas une vérité, c'est une contre-vérité. C'est une règle qui est valable, mais elle a ses conditions de validité. Hein, c'est pas une règle qui est comme ça et maître. La critique yani, détaillée prévaut sur l'éloge général, oui. Mais bon, quand tu as une critique détaillée qui est refutée par un savant sans temps, comment tu fais? Une critique détaillée qui est refutée par une éloge détaillée. Est-ce qu'on peut l'appliquer comme ça, sans ces règles? Est-ce que la critique, n'importe quelle critique, qu'elle tienne ou qu'elle ne tienne pas, est-ce qu'elle est valable? Sinon, on va prendre tout ce qu'a critiqué l'imam Dar-Qutni concernant Bukhari, on va le mettre, et concernant certains des hadiths de Bukhari, on va les prendre comme tel. On va prendre tout le travail qu'a fait Cheikh Rabi', Hafizahullah, concernant son magistère, le fait de défendre l'imam Muslim, Sahih Muslim, des critiques de l'imam Dar-Qutni, on va pas le prendre en considération. Donc là-dessus, il y a certaines règles qu'il faudrait bien comprendre, et le problème de la masse qu'on a dans ce nom aujourd'hui, s'il y a une grande masse qui est rentrée dans le da'wah, dans le minhaj salafi d'une façon générale, mais cette grande masse concernant ce qu'elle a comme bagage dans la science, on a plus un effet de masse qu'un effet de qualité. Et il y en a qui prennent des règles, quand tu lui poses des questions, comment tu appliques cette règle, il ne sait pas. Et quand tu parles d'une question, même tu entends des critiques, tu lui dis, voilà, d'accord, on va essayer d'avancer parce que notre but c'est de savoir la vérité, c'est de chercher la vérité, au détriment du fait de faire la sacralisation de certains chouyours, comme le font certains. Et donc, voilà, montre-moi, explique-moi comment cette critique elle est, il te dit, non, moi, un tel il a dit, c'est bon. C'est pas ça de Da'wah Salafia, c'est Da'wah Salafia, vous avez bien dit, que la vérité elle prévaut sur les chouyours, sur les ulama. Hein? La ta'rif al-haqqa bi-rijal, c'est comme ça qu'on dit, non? Je sais pas. Des fois, on se pose des questions, et c'est un aigle. Il te dit, je sais pas, c'est quoi les règles, c'est un qui prend, yani, qui avance ces règles et qui ne les applique pas. Hein, je dis, bon, d'accord, on va discuter cette question. Sans rentrer dans la critique, sans te dire, voilà, ton cher, il ne va pas, il est bien ou il n'est pas bien, je veux comprendre. Et tu poses la question de la comprendre, et tu dis, tu as un doute. Et si tu as un doute, tu ne suis pas le tel chir. Et si tu ne suis pas tel chir, tu as un problème. Je dis, mais c'est toi qui as un problème. Je cherche à comprendre. C'est-à-dire, ça c'est une religion, c'est une question de jannah ou l'anna, c'est de paradis ou d'enfer. C'est une question de suivre la vérité ou de ne pas la suivre. Moi, je n'ai aucune contrainte à suivre tel ou tel minège. Hein, j'ai aucune contrainte à suivre tel chemin ou tel autre chemin. La contrainte que j'ai, c'est la vérité. Moi, ce que j'ai, c'est être sauvé le jour du jugement dernier. Et être sauvé, c'est selon des règles qui ont été citées depuis plus de 14 siècles. Ça date pas d'aujourd'hui. Le fait de suivre le salaf, c'est pas aujourd'hui. Les ulama, ils en ont parlé, ça a été des règles, ça a été... Alhamdoulilah, tout a été clarifié. Le problème de certains, c'est que ils vont pas au fond de... Tu lui dis, bon, tel est critiqué, d'accord. Sur quoi il a été critiqué? Et tu dis, moi, je m'en fous, moi, il a été critiqué, c'est comme ça. Bon, tu sais pas, ni tu as le droit de prendre un avis que tu veux. Mais ne m'impose pas, ni un avis alors que tu n'arrives pas à l'expliquer. Je sais pas, c'est comme si tu me dis, dans la prière, tu pries comme ça. Pourquoi? Parce que chez Foulain, il l'a fait pour toi. C'est quoi? Da'wah Salafia t'a dit, il faut... D'accord. C'est Cheikh Foulan, il a dit ça. Il a dit ça à partir de quel hadith, de quel texte? Ah, il te dit, je ne sais pas. Moi, j'étudie le fiqh, Cheikh Foulan, c'est bien de le prendre, pour toi. Mais quand il s'agit de discuter une question où il y a divergence, ne me dis pas, tel Cheikh il a dit. Parce que ça ne tient pas debout quand il s'agit de parler de divergence. Parce que l'Allah Azza wa Jalla, il a dit, « Wa intanaza'tum fi shay'in, faruddouhu ila Allah wa Rasuli, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun
واحسن التاويل كون تي ديفيرجونس يفو سيتي لي بروف يفو الي بلو لوين كو الفات دو ديتيل شيخ الى دي ميم سي سي بور توا سي سوفيزان مي كون تي ساجي دو ديسكوتي ان فير جو سي با سي تي با داكور سور الفات كي ميت سي مان دروا سا مان دروا سور سا مان غوش ابري لو روكوع Tu ne vas pas lui dire, voilà, moi, c'était chef, il a dit, pour toi. Mais ce n'est pas considéré comme une preuve le fait de dire que tel alim, il a dit. Une preuve, c'est le kitab ou sunna, c'est le hadith. Donc, tant que tu ne connais pas cette question, tu te retires de la discussion. Tu dis, moi, pour moi, je la pratique comme ça, j'ai confiance en tel alim, je l'apprends. D'accord. Mais tu ne peux pas venir dire, voilà, à l'autre, oui, tu te trompes de ne pas faire ça, etc. Parce que moi, mon alim, c'est un alim qui ne se trompe pas. Hein? Le shirk de qui je prends, c'est un shirk qui est au-dessus des erreurs. Hein? Et c'est ce que disent, c'est le message qu'on comprend, pas de ce que prétendent certains, de ce qui se voit à travers ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent prétendre que non, on ne sacralise pas le shirk. Mais tu lui dis, donc il est possible qu'il se trompe. Il hésite. Il est possible que je prenne pas sa critique concernant un tel, parce qu'il y a d'autres choses qui ont répliqué, parce qu'il y a des détails que cette critique, par exemple, je peux ne pas la prendre à 100%, je vais la prendre à 70%, par exemple. Non. Tu la prennes à 100%. Si tu la prends pas à 100%, la sanction, c'est que tu sors. C'est un carton rouge, le minège. C'est terrible quand même, comme force. C'est discutant. Essayons de trouver, Rabbi Yasser Omar. Il n'y a pas de règle, il n'y a dans l'absolu qui n'a pas de conditions à être appliquées. Il y a des règles, c'était toutes les règles. Ah, sinon, on a une règle qui est connue par les ulama, ils disent « Kalam al-aqran yutwa wa la yurwa ». Ah, la critique des contemporains vis-à-vis d'eux, hein, des ulama qui étaient contemporains, hein, des fois, il y a des critiques fortes entre eux. Les ulama, ils disent « Quand tu arrives sur des critiques comme ça, tout toi, ça ne faut pas rentrer dans ces... On ne prenne pas en considération le critique, ce qui peut rentrer le hasad entre eux, c'est des ulama qui sont contemporains, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui peuvent rentrer dans ça. Et donc, les ulama disent, bon, cela, quand tu entends des critiques contre des grands, faut pas de même période, il ne faut pas les prendre en considération. Ou toi, c'est-à-dire, il faut le, hein, c'est comme tu fermes le livre, et tu, c'est pas la peine de ramener ce qu'ils disent. Donc, il y a des règles qui paraît se contredire dans ce qu'on dit. Et dans cela, ben, j'invite un peu mes frères à bien, quand ils citent les règles, de savoir les conditions de ces règles, comment elles sont citées, comment elles sont appliquées, qu'il ne faut pas prendre ces règles comme ça dans l'absolu. Si tu prends la critique, quelle qu'elle soit, comme ça, et tu la pratiques surtout, tu vas laisser personne. Tu vas laisser personne. La preuve, l'imam Bukhari, c'est qui l'a critiqué? L'imam Douli, c'est un imam. C'est pas un petit. Yani. Et malgré ça, l'imam Muslim, comme dit Cheikh Rabir dans le Muqaddima de son livre, l'imam Muslim a pris la défense de l'imam al-Bukhari malgré la critique de l'imam Zuhri. Ça veut dire que cette règle, il faudrait qu'on la révise et qu'on comprenne les conditions de sa pratique, etc., dans l'absolu. Parce que nous, on veut apprendre la science. Hein, quand c'est une règle, il faudrait qu'on la connaisse. Et dans l'application de cette règle, elle est applicable, j'allais dire, dans beaucoup de cas, mais dans certains cas, elle n'est pas applicable. Il y a des conditions qu'il faut citer et qui ont été citées dans Ain Musar al-Hadith. Ces règles-là ont été citées. Sinon, et la vérité, personne ne pourra la changer, quel qu'il soit. Al-Haq, ça ne peut pas être changé. La vérité, il n'y a personne qui peut la changer. Hein, donc... Et c'est le but vers lequel devraient aspirer, yani, tous nos frères qui se disent, yani, un petit peu, on est dans le neige, je cherche la vérité, on suit Salaf Salah, on suit le Haq, et après tu trouves dans leur façon, yani, de se comporter, ou dans la façon de se positionner parmi certaines questions, des positions qui peuvent contribuer à une grande fitna qui existe, yani, aujourd'hui. Et certains frères me disent, je suis plus où mettre la tête. Ah, j'entends tel chérif comme ça, l'autre il me dit comme ça, l'autre il dit... C'est ça l'importance de la science, le fait de maîtriser la science, hein, de comprendre les règles de ulama al-hadith. Hein, certains disent, oui, pourquoi on entend la règle et qu'on essaie de comprendre... Si, la pratique de ces règles, ils viennent. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de règles qui sont pratiquées, mais pas dans le contexte qu'il faut. Une grande règle qui est connue et qui a été citée, surtout quand on parle de fiqh, etc., et de ce que disent les imams, et de la... Ah, il cite la règle de لازم القول القول ليس بقول أو لازم المذهب ليس بمذهب. C'est-à-dire quand un alim il dit quelque chose et que toi tu dis donc parce qu'il a dit cela, ça veut dire cela, لازم القول, hein, c'est-à-dire la je sais pas en français comment dire le, la déduction qu'on peut faire d'une parole donnée n'est pas la parole de celui qui a dit. C'est-à-dire quand tu entends quelqu'un dire quelque chose, tu dis je déduis de ce qu'il dit qu'il veut ça ou que ça, cela veut dire cela. Non, il se peut que dans la déduction que tu as faite, tu n'as pas déduit ce qu'il faut. C'est pour que l'alim, parce qu'il a dit cette phrase, il a voulu un sens, que cette phrase elle a plusieurs sens, et que lui, il a voulu un sens donné. Toi, tu viens, tu dis, non, moi, je déduis cette phrase, un sens, un sens, par exemple, X, alors que lui, il voulait un autre sens. Tu sais pas. C'est pour ça que les gens disent, non, lazimul madhab, lazimul qawl, n'est pas un qawl. Lazimul madhab, yani lazimul madhab. Et certains disent, voilà, on entend aujourd'hui d'autres, certains qui sont connus, yani, dans le en fait, de combattre les tekfiriyyin, etc. Bon, on prend une de leurs paroles et va dire, ouais, ça y est, c'est un tekfiriyyin parce qu'il a dit, il ne voulait pas dire peut-être le sens que tu es en train de dire aujourd'hui. Toi, le manhaj de l'insane, on le connaît de l'ensemble de ce qu'il dit. Pas d'une parole, parce qu'il était énervé. L'insane, des fois, quand il est énervé, il dit des choses. Si le talaq, quand l'insan il est mughlaq, yani dans l'énervement absolu, on ne prend pas de lui le fait qu'il dit à sa femme un petit talaq, yani que c'est vraiment c'est un degré d'énervement qui fait que l'insan il dit n'importe quoi, yani il ne faut pas. Des fois, l'insan, je ne sais pas, tu le forces, ou là, il est énervé sur une question et il peut même dire quelque chose de coffre, yani, tellement il a, qui met un goulot, comme il dit ici, il a pété les plans. C'est ça. Yani, des fois, l'insan il arrive. Donc si tu prends la parole, Tao, parce qu'il était énervé un jour, il a dit ça, et tu dis, voilà, il a dit ça, donc, et voilà, allez, dehors. Et tu laisses même pas de... Enfin, t'as donc les donc, quand il commence, c'est comme une chute libre. Tu peux même pas la stopper. Tu dis, stop, il n'y a pas, il voulait pas dire cela. Subhanallah, l'insan, il est connu, il est... Non, il a dit ça, ça veut dire. Subhanallah, l'adim. Mais bon, vous avez des règles. Pourquoi vous appliquez que des règles qui vont dans l'hawa que tu veux, n'ta? Essayer d'être dans la vérité d'une façon absolue. Hein, quand on a une divergence ou une question, il faut qu'on soit véridique. Et il a dit, « Taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mashi ma'al mashhourin. » C'est pas parce qu'aujourd'hui, certains sont devenus célèbres, ou à un moment ils sont devenus célèbres, ou telle école elle est célèbre, qu'on doit suivre parce qu'elle est célèbre. Non, on doit suivre la vérité. On doit suivre le haqq. C'est ça, c'est pour ça qu'on est dans le ménage. Parce que c'est un ménage qui donne de l'importance à la vérité au détriment de toute autre chose, du respect que tu as pour ton cher, du fait que tu aimes ton cher même si tu l'aimes, ou celui qui t'a monté, qui t'a sorti, t'étais parti de l'Europe vraiment dans Dolomètre, t'es parti à Mecque, Médine, t'as vu la lumière, mashallah, t'étais illuminé, même si c'est lui qui t'a fait ça, que t'as connu des, mashallah, iman, ça veut pas dire que toute la vérité ne sort que de sa bouche. Hein, il peut se tromper sur certaines choses. Le fait qu'on aime nos jours, c'est pas quelque chose qui fait qu'on fait passer cet amour au détriment de la vérité. Et quand on discute de toute chose, on met ces règles-là et on discute. Ça, on met la règle, c'est de suivre la vérité. Et on prend au défi quiconque là-dessus. C'est certain, il te colle une étiquette et c'est bon. Ce que je peux dire. Ne suis pas, n'écoute pas, frère, il est comme ça et cherche pas à savoir. T'as cette couleur que tu le veux ou non. C'est pas grave, hein. Vous connaissez celui qui fait rentrer au paradis, c'est Allah Azza wa Jal. Hein, c'est pas le fait d'être célèbre ou de connaître, ou d'être avec, d'essayer de plaire à un certain ensemble de gens. C'est pas ça qui prime. Hein. C'est même la définition même de la sincérité. Alors, le fait de suivre la vérité, c'est au détriment de, le fait de faire plaire aux gens, de plaire à certains chouyours, ou de plaire à certaines. S'il y a une question et il y a divergence entre certains jours qui ont droit à parler dans le da'wah, tu choisis parmi les positions de ces jours la position qui te paraît la plus proche de la vérité. C'est ça. C'est la règle d'une façon générale. Voilà, et dans toute chose, il y a, ça discute les arguments qu'il y a, il faut les ramener. Hein, quand tu veux critiquer un tel, ou viens critique, fais face à la vérité. Et beaucoup, il y en a, se cachent quand il s'agit de discuter, de rentrer dans les détails. Dans les détails, il y en a concernant la science, concernant les règles qu'on suit, concernant. Ils rentrent par la porte de dire voilà, comme l'ont fait il y a un certain temps, tous ceux qu'on leur disait voilà, ne suivez pas le Malik, ne faites pas ta'assob l'imam Malik, il faut qu'on suive le Kitab ou le Sunna. Ah, voilà. Ils nous disaient là, vous êtes en train de critiquer l'imam Malik. Mais on ne critique pas l'imam Malik, Rabbi Hadik. Là, on te dit de suivre l'ensemble des ulama. Nous, on aime l'imam Malik plus que tu penses. C'est parmi nos imams, Ta'asaref. Mais on a une considération pour l'imam Malik, on a une considération pour le Shafi'i, son élève, qui l'a contredit sur pas mal de questions, Ta'alfir. Ah, malgré que c'était son élève, on ne peut pas me dire, oui, l'imam Malik, il est plus âgé, c'est le cheikh de. Tu vas faire une approche mathématique, Yannis. C'est pas une approche, Yannis. Hein, l'âge, l'ancien. L'imam Shafi'i, c'est un de ses élèves. Et pourtant, il n'a pas été d'accord avec l'imam Malik, son cheikh, et pourtant, il l'aimait, hein. L'imam, son cheikh, il avait du respect pour son imam, de telle sorte que lorsqu'il tournait les feuilles, elles étaient pas aussi légères que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ils n'avaient pas les moyens qu'on a. Hein, ils ne faisaient pas de bruit. Quand ils tournaient la feuille, ils la tournaient avec, pour ne pas faire de bruit. Tellement ils respectaient la chure. Et l'imam Ahmed, l'élève de l'imam Shafi'i, il a fait aussi. Il n'a pas été d'accord avec son imam, parmi ses imams, ni Shafi'i, ni avec l'imam Malik, sur pas mal de questions liées au fiqh, et ça ne veut pas dire qu'il ne le respecte pas. Donc aujourd'hui, notre position vis-à-vis de cette injure, même si on n'est pas d'accord sur leurs avis, sur certains de leurs critiques, ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. Subhanallah al-Azim. Je dois respecter un cheikh, ça veut dire, tu prends tout ce qu'il a dit, pas à 99%, à 100%. Si jamais on détecte que tu n'es pas d'accord à 1%, près, Allah, tu vas sortir du tabouletka. Mais tu penses quoi, hein? Que Admina, je le fais pour je le suis pour tes beaux yeux, je le suis pour te plaire, je suis pour Allah Azza wa Jal. Allah choisit parce que c'est la vérité, surtout fait l'Ouqt. Où tu penses les gens de ta sunna aujourd'hui? Ils ont une obligation de suivre. Ils sont minoritaires. C'est pas parce que quand tu es à Médine ou à la Mecque, tu vois un groupe qui vient de Paris, ou un groupe qui vient de France, ou un groupe qui vient de Belgique, ou un groupe qui vient de Hollande, ou un groupe qui vient d'Espagne. Quand j'arrive, je vais arriver moi en Europe, je vais trouver la mosquée, même à l'aéroport, avec un imam Salafi qui fait le. Mais quand même, Dawa Salafi est faible, il faut dire la vérité. Faible. On a combien de mosquées, on est combien dans le nombre, même dans les idées. Et des fois, combien de fois tu te trouves contredit quand tu parles des règles de base, ni pas les gens qui t'entourent. Ça prouve. On est dans une certaine faiblesse, et dans cette faiblesse, il faudrait qu'on rentre dans certains domaines, dans certains critiques, et surtout qui touche à notre union et à notre force, de faire très attention et qu'on rentre avec des pincettes, avec recul, et qu'on essaie d'être véridique avec nous-mêmes. C'est un point de vue, une certaine critique qu'on avance, parce que dit quand même, il faut qu'il y ait la critique, hein. Certaines critiques, il y en a qu'on essaie d'avancer, une critique qu'on est, Inch'Allah, qu'on souhaite qu'elle soit constructive et qu'elle nous apporte au moins à nous, si jamais on est égaré, qu'elle nous montre le droit chemin. On aimerait bien voir le droit chemin duquel on est éloigné, ou qu'on est venu c'est devenu des hisbis parce qu'on n'a pas pris certaines critiques de certains chouyours, ou qu'on considère qu'ils peuvent se tromper sur certaines de ces critiques. On dit ouvertement. Hein, on dit ouvertement et qu'on suit notre chemin dans la clarté. Hein, parce que c'est un chemin qui va, qui réserve des surprises à beaucoup d'entre nous. À un certain moment, sur certains chouyours, c'était le. La fleur de Médine, après elle est devenue pire que la mouche de Médine. C'était des critiques qui sont. Après cette affaire, ils n'ont rien compris. Surtout, ils avaient peu de bagages. Et il y en a même qui sont dit bon, Allez, il a rasé sa barbe et il t'a dit, tiens, je te la rends. Je comprends bien, je comprends rien du tout dans le ménage que tu es en train de citer, que vous êtes en train de nous appeler vers un ménage, et j'ai une règle, on m'a dit que c'est absolu, et après je vois que c'est pas absolu, c'est relatif, c'est bizarre. Celui-là, il était, c'était un grand savant. D'un seul coup, il est devenu pire que Shaitan. Il faut faire attention à ces choses-là, et dans le cadre du fait d'apprendre la science. C'est une des pratiques qu'on a aujourd'hui. La science, elle est très importante. Le fait que toi, que tu prennes les bagages de cette science, que tu t'armes de science, c'est bon pour toi. Parce que la fitna, quand elle arrive, tu ne sais pas la force de cette fitna, comment elle peut être. C'est quoi qu'elle a comme niveau, et cette fitna, la dernière, n'est pas aussi simple. Il y avait les trois gonfures, Cheikh Mounbaz, Cheikh Mounbaz, Cheikh Albani, Rahimahullah. On ne voyait pas, le poids qu'ils avaient. On l'a compris quand ils sont morts tous, en même temps, presque en une année. Ça a fait un vide et ça a fait que les fitaines desquelles on fait face aujourd'hui, ils n'auraient pas été d'une telle force s'ils étaient là. Et on n'arrive pas peut-être à trouver une conciliation entre nos frères qui se disent un petit peu dans le ménage, alors que de leur temps, une parole suffisait. Quand certains commençaient à dire « Oui, muslim, Nawawi, on ne prend pas de lui, Ibn Hajar, on ne prend pas de Abari parce qu'il avait des déviations un petit peu dans l'aqida, etc. » Cheikh Bani Rahimahullah, Cheikh Mounbaz, Cheikh Mounbaz, ils ont répondu d'une seule voix. Ça a tué un mouvement qui commençait à prendre un élan important et qui allait faire des dégâts. On revient à un autre sujet, Inch'Allah. Sur le hadith. Le hadith d'Andarallahu, Mara Ansamiha Maqalati. Il a su Cheikh Abdel Mohsin El-Abbad. Il a écrit tout un livre pour expliquer ce hadith. Et donc il y a des fawaïd qui cite, qu'on ne trouve pas dans le livre qu'on est en train d'étudier, Miftah Dar Sa'ada de Mouqayyim. Il a un petit peu résumé là-dessus par rapport à ce qu'a écrit Cheikh Abdel Mohsin El-Abbad. Hafidahullah. C'est des chouchs. On leur fait du'a, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla les préserve. Si on appelait nous ulama, on espère, et Alhamdoulilah, aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla, il a fait que. Les ulama, il y en a qui sont d'un avis, il y en a qui sont d'un autre. Et tout ça pour nous permettre de dire, voilà, l'ilm d'Allah Azza wa Jalla, on n'a pas perdu sur toute question, on va trouver parmi l'ilm ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, Cheikh Al-Masih Abbas, il a commencé par citer un peu ce hadith dans sa totalité, parce que Ibn Qayyim, il l'a cité, il n'a pas cité en entier. On a dit que ce hadith, il a été cité par combien de sahabi dans le dernier cours? Il y avait le 4. Ah, c'est pas toi. Il y avait le 4, 24. Cheikh Mohsin Abad, il est arrivé jusqu'à 24. Avant lui, ils ont cité 16. Lui, il a un petit peu fait un travail phénoménal, en essayant de regrouper tous les compagnons qui ont cité ce hadith. Il est arrivé avec plus de 24 sahabi. Et il le cite là, dans sa forme la plus complète. « Azayd ibn Thabit, radiallahu anhu, anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, Naddara Allahu Mra'an ou Abdan. » Il y a plusieurs hadiths, il y a des mots que tu trouves dans certaines riwayats et pas dans d'autres. Naddara, ça peut être avec Shedda, Naddara ou directement Nadara, sans Shedda, c'est Adad, les deux. Et la deuxième, le fait de ne pas citer Shedda, c'était la plus connue ou la plus forte. Naddara Allahu Mra'an ou Abdan. سمع مقالتي فحملها الى غيره البروفيسور صلى الله عليه وسلم يدي celui qui Allah Azza wa Jalla embellisse le visage de celui qui écoute mon hadith que j'ai dit et qui le ramène à d'autres. فرب حامل فرق إلى من هو أفقه منه. Il se peut que celui à qui il va porter ce hadith va le comprendre mieux que lui. Et il va tirer plus de fiqh que celui qui l'a écouté directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ورب حامل فقه ليس بفقه. Et il se peut qu'il y ait des gens qui apprennent des hadiths mais qui ne connaissent pas, qui ne sont pas yani, des hommes de science, de fiqh, yani, qui tirent les fawaïd de l'hadith, c'est les enseignements. Hein? C'est ça? Les profits. Fawaïd, oui, fawaïd, c'est un profit. Voilà, un profit dans la science, c'est un enseignement, c'est l'âme. Et ça veut faire. Et un fakir, comment on dit en français? Oui, fakir. Il n'y a pas de mot. رب حامل الفقه لا الفقه c'est l'ilm d'une façon générale c'est dans le sens le plus large le fiqh il a un sens qui est large ça parle de la science en général tout ce qui est science c'est du fiqh parce que ça vient du fait de comprendre d'assimiler assimilation comprendre la science d'une façon générale et après il a été utilisé dans un sens plus particulier qui concerne le fiqh la définition du fiqh ma'rifat al-ahkam shar'iyya al-amaliyya من أدلتها التفصيلية فد كونات الأحكام لرجل شرعية العملية لرجل دوراسيون براتيك صح لرجل جيسلاتي براتيك تيري دو من أدلتها التفصيلية دي بروف سبيسيفيك الفقه معرفة المعرفة والعلم سا Et ils ont des sens qui sont rapprochés. Ma'rifat al-ahkam shar'iyya, fait de connaître les règles de fiqh qu'on connaît. L'amaliya, parce qu'elle est pratique, ce qui n'est pas pratique, c'est l'aqida. Ahkam shar'iyya, l'atiqadiyya, l'aqida, ça parle de quelque chose qui n'est pas. C'est des enseignements auxquels on adhère par notre cœur. L'aqida, c'est quelque chose qui est interne. Tandis que le fiqh, c'est quelque chose qui est. Externe. Comment tu fais la prière, comment tu fais le jeûne, comment tu fais le hajj, etc. C'est ahkam amaliya pratique. C'est des actions. Ahkam amaliya, le fiqh non ma'rifat l'ahkam amaliya, ahkam shar'iyya l'amaliya, min adilatiha, tiré de ces dalils spécifiques, adilatiha tafsiliya. L'ijmaliya, c'est le global. Si tu prends à tarif cette définition et à la fin tu mets l'adil al-ijmaliya, ça fait la science de usul al-fiqh. L'adil al-ijmaliya, c'est-à-dire tirer les enseignements d'un ensemble de hadiths, ça parle de usul al-fiqh. C'est savoir une certaine logique à prendre, c'est un règle qu'on apprend dans le fiqh. Alors quand on dit darurat tubihu al-mahdurat, c'est ça? La règle, la nécessité autorise, c'est ça? Oui, c'est ça. Mashaka, tajlibu taysir. La difficulté attire la facilité. C'est ça, si je peux la traduire. Mashaka, par exemple, tu étais malade, tu ne peux pas prier debout. Mashaka, tu pries comment? Ah, si, parce que tu ne peux pas prier debout. Donc le mashaka hadith, elle attire la facilité. C'est-à-dire que puisque tu ne peux pas prier debout, tu pries comme tu l'es. Et donc ça, c'est une règle qui est tirée d'un hadith ou de plusieurs. C'est plusieurs, même c'est des versets. C'est-à-dire l'adil al-jmaliya, elle conduit à des règles. Des règles, dans ce qu'on dit, darura tubih mahdura, ça c'est une règle. Ça, c'est une règle qui rentre dans le sol, dans le sens de... qui est tiré de plusieurs hadiths et qui permet de comprendre certains contextes, certaines règles qu'on dit ou certains hadiths qui sont cités, on comprend que quelque chose est haram, il est haram, mais bon, quand il y a nécessité, le darurat ou bihal mahdurat. Mais il y a aussi la règle qui dit le darurat ou qadaru biqadariya. Quand il y a nécessité, on ne prend de la nécessité que ce qui est strict nécessaire. Si jamais on a dit tu tombes avec un avion, parce qu'il tombe beaucoup ces derniers temps, hein, tu te retrouves dans un désert avec des bouteilles bizarres, il ne faut pas dire oh, le bon vieux temps. Je vais. Non, tu ne prends que ce qui te permet de survivre. Tu ne vas pas te rassasier. Allez, tu te dis bon, là ça me. Le jahiliya, des fois, elle veut revenir en force. Elle est cachée par la foi qu'on a, par là, mais le passé, il a toujours son influence. Et dans les fitnes, en général, cette jahiliya remonte en surface. Un shaitan, il va dire, oh, il y a tellement de fitnes entre ses lèvres, que te casse la tête. Voilà, neuf stacks, tu l'as pris. Après tout, tu ne fais pas une bida. Attention, shaitan, il profite de tout, il profite des fitnes qu'on a. Il faut qu'on fasse attention à nous. Donc il y a une fitna qu'on en parle, il y a directement d'internet, il n'y a pas de. Hein. Laisse les gens parler, laisse les gens même te dire, t'es pas bien ou là t'es bien, t'en fous. Allez, je ne t'ai pas trop dérobé. C'est Allah Azzawajal qu'il faut. Hein. Si tu sais que c'est une vérité, le chemin sur lequel tu suis, tu la suis au détriment du fait de faire briser le nez ou faire. Difficile, mais c'est ça le chemin du salut de l'insane et qu'on fait. Donc, on a dit, c'est le fiqh, c'est ça, le mot fiqh, il est venu avec ce sens-là. Après, il est rentré dans un sens qui est particulier, c'est le fiqh comme on connaît, le fait de connaître les règles de salat, siyam, al-hajj, etc. Et bon, la définition du fiqh, c'est bien de la connaître, hein, ma'arifat l'ahkam shari'a al-amaliya min adilatiha, au mot tafsiliya, par exemple. Et aussi, le fiqh, c'est l'adila, ma'arifat l'ahkam shari'a min adilatiha. L'ijmali. Les saignes, ils se disent, voilà, je suis malade, donc je prie comme je peux. Là, il a fait il a pris une initiative dans le shara et il a tiré cette initiative d'une règle générale. Hein, c'est aussi pratique. Et ces règles pratiques, c'est bien de les connaître, c'est pas la peine à chaque fois de revenir, de montrer de l'île. La preuve du fait que darurat ou bihal mahdurat, ça c'est une recherche, les ulama ils ont cité tous les délits qui, ou la majorité des délits qui en parlent, c'est suffisant de citer juste la règle. Quelqu'un il vient, il te dit oui, mais qui est-ce qui me dit moi que le darurat, etc., il faut délits, qu'Allah, qu'Allah, Rasul, ça c'est des règles qui sont tirées de l'ensemble des textes et études. Et là-dessus, il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là. Donc, comme on a dit, le professeur sallam, il a dit نظر الله عبدا سمع مقالتي فحملها إلى غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل أو يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. Donc trois choses, trois caractéristiques ne peuvent pas être dans le cœur d'un musulman. Ou plutôt, trois caractéristiques sont essentielles dans le cœur d'un musulman. Le fait de l'ikhlas, la sincérité de l'action envers Allah Azza wa Jal, le fait de porter conseil aux imams des musulmans et le fait de rester dans la jama'a, dans le groupe des musulmans, parce que leur invocation de ta'wa ta'hum, invocation, que ce soit Dawah dans le sens invocation ou que ce soit le chemin qu'ils suivent, elle les entoure. C'est comme elle les entoure, c'est comme un mur qui est protecteur. Peut-être que tu es dans la. Tu vis avec le commun des musulmans, le fait de vivre avec le chemin des musulmans. Et donc tu profites des retombées de leurs invocations et ce qui fait que tu es dans le. Tu rentres dans l'ensemble qui est protégé par ce mur qui protège yani l'ensemble des musulmans, jama'at al-muslimin. Hein, quand tu fais ta shahoud, salam alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu profites yani des du'as des musulmans. Yani du'as muslim, quand il fait du'as, il fait du'as pour lui, pour l'ensemble des musulmans. Tu as une part yani du fait que tu telzim jama'at al-muslimin. Tu ne te différencies pas de l'ensemble, de cet ensemble. Tu ne t'isoles pas, tu ne dis pas vraiment comme le font certains musulmans de kfir, ou Shia, etc., qui arrivent jusqu'au point de ne pas prier avec les musulmans. Hein, donc tu ne profites pas de leur doua, de la baraka qui les entoure, malgré leur faiblesse. Et le Rasul, il continue le hadith, il dit « Man kanat ad-dunya hamuhu », celui qui veut que dunya, « Naza Allahu al-ghina min qalbi Allah Azza wa Jal », enlève la richesse de son cœur. « Waja'ala faqrahu bayna aynihi », il met la pauvreté entre ses yeux. « Washattat Allahu alayhi day'atahu », et Allah Azza wa Jal le disperse dans sa volonté de chercher dunya hadi. وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا رُزِقَ. Alors qu'il n'a de cette dunya que ce que l'Azza wa Jalla lui a écrit. Hein, que tu... L'Azza wa Jalla t'a écrit ce que tu as, que sois tranquille. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ. Celui qui, par contre, il a l'objectif de l'akhira, le fait de ce qu'il y a après le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal, il met la richesse dans son cœur, et il enlève la pauvreté d'entre ses yeux. Il n'a plus peur de la pauvreté. Il sait que jusqu'à Ta'ou, il arrive, il sait qu'il va aller, qu'il va vivre cette vie, qu'il va aller, inshallah, au paradis. Il a sa richesse dans son cœur. Et il dit وَكَفَّ عَلَيْهِ ضَيَعَتَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Et dunya, c'est elle qui va, c'est pas lui qui court derrière, mais c'est dunya qui va lui courir après. Donc le fait de suivre le din, c'est une façon d'assurer dunya. Hein, tu assures dunya ta'ak, en assurant din. Donc quand tu assures din ta'ak, tu assures dunya ta'ak, tu assures le paradis ta'ak sur terre et dans l'au-delà même. Si ce paradis il n'est pas, il se chiffre pas avec des millions de beaucoup d'argent ou beaucoup de bienfaits à tenir, le fait de suivre le din, c'est le fait de suivre un chemin qui assure le bonheur, ton bonheur dans le dunya et dans l'akhira. Et donc le hadith il s'arrête là. Le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il dit وهذا السياق يشتمل على أربع جمل رئيسة. الشيخ المصير العباد حفظه الله. C'est un شيوخ, il faut. C'est un شيخ toujours حفظه الله. Quand il cite d'autres شيوخ, il n'est pas aussi pointilleux sur ce détail. الجملة الأولى هي المشتمل على الدعوة لسامعي الحديث. Donc la première partie, c'est dua que fait le Rasoul, seulement celui qui écoute son hadith et qui le transmet. La deuxième partie, elle parle des fawaïd. Fawaïda, c'est les bienfaits, c'est le profit, par exemple, on fixe ça. Le profit du fait de transmettre ce hadith et le fait d'exploiter ce que contient ce hadith, d'exploiter le fait qu'il contient. La troisième partie, ça parle de les qualités qu'il devrait avoir, qui devraient être essentielles dans le cœur d'un musulman. La quatrième partie, c'est lorsqu'il parle du fait que celui qui a son intention pour le dunya et celui qui a son intention pour l'akhira. Ça, une étude globale. L'étude globale du hadith. Ça rappelle un peu tafsir mawdu'i du Coran. Le Coran, il y a l'explication verset après verset. Et il y a l'explication, ce qu'on appelle tafsir mawdu'i. C'est l'explication globale, c'est-à-dire dans le surat que tu as. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a commencé en citant tel sujet, après il est passé à un autre sujet, il est passé à un autre sujet. Il cite le sujet de la surat. Ils essaient de mettre la liaison qu'il y a entre différents sujets. Les principales recommandations qu'il y a dans l'Aya, et pourquoi Allah Azza wa Jal il a cité telle chose, après il est passé à autre chose qui paraît complètement, peut-être, à première vue, on ne voit pas directement quelle est la liaison. Mais l'ilm, il montre un peu pourquoi. Et ça, c'est important. Hein, quand on vit avec le Coran, hein, quand on l'entend, quand on l'écoute, qu'on comprenne les versets, qu'on comprenne le sens, c'est quelque chose d'essentiel. Ça demande beaucoup de temps. Et notre vie, elle est ce que l'Azawajal nous a écrit comme temps, et il est bien en dessous de ce qu'on peut, hein, si on l'exploite en entier, dans le fait d'apprendre la science. Et c'est combien de versets il écoute et qu'il ne comprend pas. Il y a des versets qui... ça devrait t'énerver, yani, d'écouter un verset, tu ne comprends pas. Yani, chaque fois, tu te dis, oui, je vais le voir, et pourtant, tu as le temps, des fois, de regarder des matchs, et de faire autre chose, plein d'autres choses. Oui, tu n'as pas beaucoup de profit, alors que... Il te reste plein de questions dans ta tête à laquelle tu n'as pas de réponse et tu as les moyens aujourd'hui, alhamdoulilah, avec les progrès d'Internet et tout, de trouver les réponses à beaucoup de questions que tu as. Beaucoup de questions que tu as, tu peux trouver la réponse. Et le fait que tu vas dans le sens d'enlever l'ignorance de toi, c'est quelque chose d'important. Tu vas dans le sens d'apprendre le din, d'apprendre... Lorsque tu écoutes le Coran, tu comprends, yani, le sens, c'est quelque chose d'important. Donc il dit que le hadith mutawatir. Le hadith ou mutawatir. C'est quoi le hadith mutawatir? On l'avait cité la dernière fois. C'est quoi tawatur? Ah, l'idée, elle est bonne. Beaucoup de gens rapportent à beaucoup de gens. نقله جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤه مع الكذب. C'est ce qu'a rapporté un ensemble important, un grand nombre de telle sorte que il n'y a pas possibilité qu'il y ait mensonge ou c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir, ça ne peut pas être un mensonge. Donc le hadith, il est arrivé, le darajat tawatur, c'est un degré le plus fort dans le hadith du professeur sallallahu alayhi wa sallam concernant le nombre des chaînes par lesquelles il a été transmis. Il y en a qui utilisent le terme yani mashour. Mashour, c'est un peu en dessous de le mutawatir. Comme il n'y a pas un nombre qui définit le tawatur chez le ulama al-hadith, c'est-à-dire que c'est laissé à l'appréciation des imams de hadith pour dire tel ou tel hadith, il est mutawatir. Ou ils utilisent le mot mashour. C'est assez. C'est un peu entre le. Là, ici, c'est un peu le hadith, celui qu'ils ont cité, en détail, des livres dans lesquels on trouve ce hadith. Après, ici, le Sahaba, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et le hadith qu'il cite, il cite les livres dans lesquels on le trouve, les différents hadiths. C'est plus de 100 pages, il y en a autour d'un seul hadith. Après, il cite Sahabi Sani Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Après, il cite Jubair ibn Mut'im. Et continue à citer les 24 derniers sahabis qu'on a cités, on a dit. Après, on rentre dans l'explication, sur le tafsir al-hadith, il fait l'explication globale, après, on rentre dans l'explication détaillée. On a cité certains de ce qu'il a dit dans l'explication détaillée. Après, il cite le sens du mot nadra. Amma ma'na. النظرة قال في القاموس ونظرة النعمة والعيش والغنى والحسن كالنظور والنظارة après il cite le sens يعني أحدهما يكون في معنى ألبسه الله نظره الحسن وخلوص اللون فيكون تقديره جمله الله وزينه c'est-à-dire le sens qu'Allah عز وجل l'a embelli Ou il y a un deuxième sens, c'est que l'Azza wa Jalla, il l'a fait atteindre l'embellissement quand les gens qui sont au paradis, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ceux qui sont au paradis, le fait qu'ils soient heureux au paradis, ça se reflète à travers leur visage. Quand tu les vois, tu sens qu'ils sont heureux. L'Azza wa Jalla, dans l'autre verset, dit walaqahum nadratan wa surur. La joie du cœur se reflète à l'extérieur. Donc soit c'est Nadra, c'est une lumière qu'on voit, c'est comme une lumière qu'on voit sur le visage de ceux qui portent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le transmettent, qui l'expliquent et qui le transmettent aux autres, ou soit le fait que ceux qui font ça, ils seront parmi ceux qui auront leur visage embelli dans le paradis. Donc les deux sens, ils sont forts. Ou le troisième sens, c'est qu'ils sont... je le fais d'eux qu'ils soient des gens d'haute importance dans la communauté de laquelle ils vivent, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui seront sujets à l'importance, c'est-à-dire les gens ils vont, ils leur demandent, ils leur posent des questions, et ils ont une importance dans le mujtama. Et ça aussi c'est un sens qui est important parce que les ulama, nous sommes des gens le cours après pour apprendre la science de la religion. Et les trois sens sont valables. Ils ont un jah inda nas wa qadr an nas. Et la phrase, elle a les deux sens. Hein. Elle a le sens d'un dua, qu'Allah Azza wa Jalla embellisse celui qui écoute mon hadith et le transmet, ou elle a le sens de khabar. Allah a embelli. Ça, c'est une khabar, c'est une information. Et donc, la phrase, elle peut venir avec un sens de dua et elle a le sens de khabar. C'est comme si c'était fait. Après, il cite pourquoi, et ça a été cité par mon Qayyim, parce que celui qui propage la sunna, il veut le bien pour l'ensemble de la communauté, et que l'Azza wa Jalla lui donne le retour de ce bien qu'il fait, pas le fait qu'il l'embellisse, et qu'il fasse qu'il ait un certain rang dans la communauté dans laquelle il vit, qu'il comme il voulait le bonheur pour les autres, Allah Azza wa Jal l'a récompensé par un grand bonheur dans son cœur et qui se reflète à travers son visage. Ça, c'est un niveau de bonheur et de jouissance dans le cœur qui est important. Le fait de vivre cette religion et de sentir cette halawa de vivre cette religion, ça se différencie entre les gens. Il y en a qui ont un certain plaisir à pratiquer des dînes, il y en a qui ont un plaisir plus grand lorsqu'ils prient, etc. Il y en a qui prient, ils sortent de la prière, ils ne sentent pas grand chose. Il y en a que lorsqu'ils prient, ils arrivent jusqu'à pleurer, jusqu'à s'émouvoir, jusqu'à. Ça se différencie, c'est une différence entre les nes. C'est-à-dire que l'impact de cette religion sur les gens, il se différencie d'une personne à une autre. Le fait qu'on essaie d'apprendre le din, d'avancer dans l'apprentissage, d'enlever l'obscurité dans laquelle on vit, c'est pour être plus imprégné, être parmi ceux qui sont le plus influencés lorsqu'ils écoutent le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et lorsqu'ils écoutent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'être plus influencé, ça donne un certain bonheur du cœur, et ce bonheur, il est à cette hauteur, à la hauteur de cette influence. Et donc, le fait que celui qui prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le transmet, l'explique, il fait un effort dans le da'wah, des gens vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu Allah Azza wa Jal le récompense par un bonheur qui est fort dans son cœur, de telle sorte que cette puissance qu'il trouve dans le fait d'étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les apprendre par cœur, de les transmettre, de connaître l'ahkam, de vivre avec le Coran, se reflète à travers son visage. Et on voit le fait que les imams de hadith, ceux qui ont vécu avec la sunna du prophète, le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ce bonheur, comment on sent qu'ils émanent d'eux, de leur personnalité, même malgré qu'on ne peut pas définir cela. Quand tu sois devant certains chouyours, tu as cette sensation, en voyant le shir, tu te dis, tu sens Al-Nadara, c'est le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas d'appareil qui mesure cela. C'est quelque chose qu'on sent et ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, mais quand tu vois les ulama, quand tu sors les ulama, tu sens vraiment Al-Nadara. Même des fois quand ils passent, sans les voir. Tu les écoutes, tu sens qu'ils. C'est quelque chose qui dit, c'est la vérité, ce qu'il dit c'est vrai, c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin, etc. C'est la barakat al-ilm, c'est la barakat du fait que ces gens-là vivent avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le ulama cite là-dessus la parole de Sufyan ibn Uyayna, un des imams de Salaf Salah. Cette parole, Khatib Baghdadi la cite dans son livre Sharaf wa Ashab al-Hadith, l'honneur de Ashab al-Hadith. Il dit فَلِذَلِكَ تَجِدُ أَهْلَ الْحَدِيثِ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَجْمَلُهُمْ هَيَّا. Il dit c'est pour ça que tu sens, quand tu es avec les gens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sens cette illumination qui sort de leur visage et cette beauté qui les entoure, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont embelli cette religion, il les embellit. نظر الله امرأة le mot امرأة donc الراء elle suit الهمزة الألف نظر الله امرأة dans الآية إن امرؤ الراء suit الألف هلك كل امرئ الراء elle suit toujours الحركة دع الهمزة qui vient après ما كان أبوك امرأ سوء ما كانت أمك بغية سورة مريم امرأة المؤنث بهمزة وصل المراد به الرجل والمؤنث امرأة لما عندي امرأة والمرأة عندي امرأة اللغة العربية لغة الشماء après ici le mot fiqh. Il dit الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة والفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة وغلب على علم الدين لشرفه. يعني المو فقه c'est ça parle de la science de façon générale, mais il a été plus utilisé dans la science de la religion. Après il cite la parole que cite Ibn Hajar dans Fath al-Bari, la différence entre faqaha wa faqaha wa faqiha. Donc faqaha bi dam idha kana fiqhu lahu sajiyya, c'est-à-dire il devient quelqu'un qui a la qualité de faqih. On dit faqaha fulan, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un gros niveau dans le fiqh, dans le din. Donc le fiqh c'est devenu quelque chose de une de ses qualités. Et on dit faqaha le mas'al fulan, c'est-à-dire il a compris la question par rapport aux autres. Il était le premier à la comprendre. Sabaqa ghayrahu ila al-fahm. Wa faqiha, quand il comprend. Donc il y a juste le fatha ou le dhamma ou le kasra qui change et le sens il change. Ça montre la richesse et la puissance de la langue arabe. C'est pas aussi évident de maîtriser la langue arabe et ça demande beaucoup de temps. Et des fois on se demande pourquoi on perd notre temps. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ثلاث بمعنى ثلاث خصال. دونك هنا هنا تنوين التنوين peut remplacer un mot, il peut remplacer une phrase. Hein, il remplace un mot, c'est talatu khisal. Talatun, la yughalu, yani talatu khisal. Yawma izin, tenouin hana, il remplace quoi? Yawma qiyama. Donc ça peut remplacer même une phrase. Tenouin, madame, l'iwad. Ça vous connaissez. Les bases de. C'est le début de l'ajromie, c'est ça. Ne me regardez pas, comme si j'étais en train de. Si au début de l'ajromie, les premières pages, il parle de tenuine et le remplacement qu'il y a et le sens. Tenuine, oui. C'est ça. Hein. T'as pas vu ça. Agib. Là, je dois faire des révisions. Si, il parle de tenuine, qui remplace yani, le sens de bon, parce que tenuine, il vient dans les verbes ou dans les noms. Oui. C'est un des signes des verbes ou des noms. Ou des. Hurouf. Tenuine, c'est un des signes des noms. Alifoulam ou tenuine, c'est-à-dire quand ils parlent tenuine, ils disent le tenuine, c'est un des signes des noms. Ouais, c'est bien, Inch'Allah. Il n'y a pas de verbe où il y a tenuine à la fin dans la langue arabe, c'est ça. On commence par. Hein. On ne commence pas par sakin, c'est ça dans l'oral arabe, hein. C'est toujours mutaharik. Et on ne finit pas par un mutaharik, on finit par sakin. J'ai afoulam, on s'arrête sur soukoun. Fdaja, on quand on commence, on parle. En arabe, il y a des règles qu'il faut respecter, c'est bien. إخلاص العمل لله أن يفعل المسلم العمل خالصا لوجه الله وإخلاص العمل لله أحد الركنين اللذين يبنى عليهما الدين الإسلامي. نعم, les deux règles, les deux conditions nécessaires pour que l'Azza wa Jalla accepte n'importe quelle adoration, c'est la sincérité et le suivi. La sincérité, l'إخلاص. Le mot khalis, c'est comme safi, la pureté. Ikhlas, c'est comme ce qui est pur. Sauf que le sens khalis, ikhlas, wa mazal anhu, shoubou, yani que la différence entre ikhlas ou safa, c'est que safa, c'est d'origine, c'est quelque chose qui était pur depuis de base. Tandis que l'ikhlas, c'est quelque chose qui a été purifié. Ça veut dire qu'il était déjà, avant, il était dans un état de salissure, qu'on purifie, il y en a l'ikhlas. C'est-à-dire que l'insane dans son cœur, il a connu, il n'a pas connu, il a connu l'ikhlas après avoir connu, ou il peut connaître le shirk. Le shirk akbar ou le shirk l'asghar. Quand tu pries dans la mosquée, ou chez Tani Jigulikba, on oublie ta prière parce qu'un tel il te regarde, ou parce que les gens ils te regardent, c'est un shirk asghar ou un shirk akbar. Ah, ça va, bien heureusement. Et donc ça, c'est un état du cœur, c'est un état saté du cœur, et on a besoin chaque fois de revenir vers sa fin, vers la pureté. C'est-à-dire que le cœur, il a des états où il tend à changer, à s'éloigner de la pureté. Qu'il ikhlas. On a parlé de Nasiha al-A'immat al-Muslimin. Ça, c'est une des règles de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. C'est une des règles du minhaj. C'est une règle essentielle. Le fait de. Donc là, il cite le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nasiha al-A'immat al-Muslimin. Hadith, le dit Akhrajahu Muslim fi Sahihihi, An Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'est celui qui a ramené le hadith de. Hadith, madame. C'est le. Non. Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal. C'est bon, Masih ad-Dajjal. Hadith Masih ad-Dajjal, c'est le seul sahabi où Rasoul sallam, il a ramené ce qu'il a dit. Donc, Rasoul sallam, il a raconté aux compagnons ce qu'a dit, ce qu'a vécu Tamim al-Dari, quand il était en mer et quand il est arrivé sur une île et il a trouvé, je ne sais pas qui était une bête, on ne savait pas son devant par rapport, ce qui est devant par rapport à ce qui était derrière, tellement elle était poilue, etc. Ou elle avait des... C'est un hadith que beaucoup évitent. Ils disent, après, cette bête, elle aura dit, il y a quelqu'un qui vous attend dans une caverne, et c'était le Messie Adjel qui attendait. Il a posé trois questions concernant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des signes, et il a dit, quand les signes ils vont apparaître, il va sortir. On prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme base. Et on n'a pas dans le dîn quelque chose qui est contre la logique qui est absolue ou contre à certains, quand ils voient certains hadiths, ils se disent, oui, mais le hadith il contredit l'aql ta'na, il est contre, on ne peut pas le comprendre, le soleil après chaque coucher du soleil, le soleil il va vers le trône, il fait soujoud, comment on peut comprendre ça? Il y a des choses qui dépassent, il y a un entendement de là. Si toi tu suis l'aql ta'ak, ce que tu as comme raison ne te suffit pas à résoudre tes problèmes. Comment tu veux tout comprendre, yani? Comment tu veux, tu te donnes yani, une logique qui est absolue. Dinada, il est venu avec la vérité, avec ce qui est absolu. Et il est au-dessus de tout, c'est-à-dire que tu peux trouver le plus grand des professeurs, le plus grand qui a le plus de bagages dans la science matérielle aujourd'hui, il y a des choses qui le dépassent dans Dinada, yani, parce que Dinada, il a été envoyé par Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui vont le dépasser. Mais, comme a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah, « Din ja'a bima tahara lahu l'uqul, ma laysa bima tastahilu l'uqul. » Il a ramené des choses que l'uqul de Fayyihir, c'est-à-dire il reste... L'hayra en français, c'est quoi? C'est... Non, l'hayra... le doute, c'est un peu le fait de rester étonné devant quelque chose. Il y a des textes, il y en a qui restent. Il y en a une scène, il reste Hira, étonnement, oui. Il y a le sens mot étonné, douter, c'est quelque chose qui dépasse. Il y a une scène, il y a quelque chose de côté, c'est vrai, il a fait ça. Hein? Tu dis, un joueur, il a fait tout le terrain, il a dribblé tout le monde, il a marqué un but. C'est possible ça, il a dribblé tout le monde. Et... J'essaie de ramener des exemples qui sont plus dans notre... Pour essayer de comprendre. Donc, ça, c'est Nihir, comment il a fait. Eh oui, tu lui dis, c'est vrai, donc il va te faire. Din, il a ramené des choses, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah, l'aql est Nihir, il va te faire, il va faire chier, non. L'Azawajin, c'est Sama Dunya, Sama Wad Sub, l'Azawajin, si on ne connaît pas les attributs de l'Azawajin, ça dépasse nos entendements, ça dépasse, on concerne un domaine dans lequel on ne peut pas mettre l'aql. Et s'il y a des firaqs qui ont divergé dans cela et ils se sont éloignés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a des gens qui priment l'aql ta'am par rapport au texte. Je lui dis, qala rasoullah, il faut que ça rentre pas dans ma tête. Ta tête, ce qu'il y a dedans, déjà, il faut le vider. Parce que, il y a plein de choses qui valent pas grand chose. Enfin, il faut apprendre le din. C'est un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est un des grands problèmes qu'on a avec les musulmans, surtout ici en France. Et tu dis, on est en France, là, c'est une technique mathématique. Qu'est-ce que tu me dis, qu'Allah Rasulullah, etc. Moi, je ne comprends pas, il faut que tu me démontres ça. Que tu me fasses l'hyperbole ou le sinus hyperbolique, que tu me fasses l'uqul hadihi kulluha. Subhanakallah, bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.